VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel au Burkina Faso. 4 djihadistes ont été neutralisés au cours d'une opération de démantèlement d'une importante base logistique terroriste à Belouro, dans le nord du pays, a annoncé l'état-major des armées dans un communiqué diffusé hier soir. De l'armement lourd, des munitions et des engins explosifs improvisés ont été saisis, ainsi que des motos et divers autres matériels, selon l'état-major. Le sommet sur le Sahel voulu par le président Emmanuel Macron, annulé la semaine dernière après une attaque djihadiste au Niger, a été reprogrammé le 13 janvier à Pau, dans le sud-ouest de la France, pour évaluer les objectifs de l'engagement français dans la zone, a annoncé lundi l'Élysée. Ce sommet permettra également de poser les bases d'un soutien international accru aux pays du Sahel, précise la présidence française dans un communiqué. En Gambie, des milliers de personnes ont manifesté hier à Banjul pour demander au président Adama Barrow de quitter le pouvoir après 3 ans, comme il s'y était engagé en devenant le candidat unique de l'opposition fin 2016. Monsieur Barrow veut maintenant rester jusqu'à 2021.
Encadrés par les forces de l'ordre, les manifestants ont défilé en un grand cortège dans les rues de Banjul au rythme de la musique de Bob Marley, scandant « 3 ans, 3 ans ». Le mouvement de la société civile Trios Jotna, 3 ans, il est temps, fondé par un homme d'affaires gambien vivant aux États-Unis, Moussa Kaira, avait appelé à cette manifestation. Investi par une coalition de l'opposition contre le président Yahya Jammeh, Adama Barrow a remporté la présidentielle du 1er décembre 2016. Il a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar alors que Yahya Jammeh a été forcé de partir en exil après une intervention régionale. Selon la charte fondatrice de la coalition 2016, le nouveau président devait diriger un gouvernement provisoire pendant 3 ans. Maintenant, Adama Barrow, qui vient d'achever une tournée du pays aux allures de campagne électorale, assure toutefois que personne ne pourra le forcer à quitter la présidence avant 2021.
Un meeting de l'opposition qui devait se dérouler samedi lors de la visite en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron a été de facto interdit par les autorités ivoiriennes. La mairie de Yopougon, grande commune populaire d'Abidjan, réputée acquise à l'opposition, a pris un arrêté interdisant toute manifestation publique pouvant entraîner des mouvements de foule sur les espaces ouverts de la commune du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba doit effectuer demain mercredi son grand retour sur la scène diplomatique internationale à Libreville avec un sommet de chefs d'État d'Afrique centrale plus d'un an après son AVC et en pleine opération anticorruption qui a ébranlé le cœur du pouvoir. Ce sommet extraordinaire de la CEAC, une organisation créée en 1983 regroupant 11 pays avec pour objectif d'instaurer un marché commun, a été annoncé il y a quelques jours par le cabinet de M. Bongo, qui en assure la présidente tournante. Le Fonds monétaire international a annoncé lundi le déblocage de 368,4 millions de dollars d'une ligne de crédit d'urgence pour que Kinshasa puisse répondre à ses besoins urgents en matière de balance des paiements, explique un communiqué de l'institution. Selon le FMI, la RDC se trouve dans une position financière difficile en raison d'une baisse du prix des matières premières, de nouvelles dépenses, ainsi qu'un contrôle des dépenses plus laxiste pendant la période de transition politique. En Centrafrique, l'ex-président François Bozizé est revenu au pays, a annoncé hier son parti. Ce retour annoncé de longue date pourrait, s'il est confirmé, bouleverser le paysage politique à un an de la présidentielle prévue en 2020. Bagasikoura.
Je peux vous le dire de la manière la plus solennelle. François Bozizé se trouve bel et bien à Bangui, a annoncé hier Bertin Béa, secrétaire général du KNK, le Kwanakwa, la formation politique de l'ancien président. Il ajoute que dans les jours à venir, François Bozizé prendra la parole, mais ne me demandez pas comment il est arrivé ni où il se trouve. Cette annonce ne me semble pas crédible, a réagi le porte-parole du gouvernement, Maxime Ange Kazagi. Selon le code électoral, les candidats à la présidentielle de décembre 2020 doivent se trouver sur le territoire national au moins un an avant le scrutin. François Bozizé a dirigé le pays de 2003 au coup d'État de 2013. Après des années d'instabilité, la SELECA, une coalition de rebelles musulmans, met en débandade l'armée régulière et prend Bangui. François Bozizé doit fuir la capitale et prendre le chemin de l'exil. Après son départ, la Centrafrique sombre dans une spirale de violence intercommunautaire.
Le ministre de l'économie du Tchad, Issa Doubragne, et son directeur général ont été placés en garde à vue lundi soir à N'Djamena dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour détournement de fonds et complicité de détournement. Début décembre, le secrétaire général de la présidence, Kazebe Paimi Debe, ancien premier ministre, avait lui aussi été incarcéré, mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics notamment.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU a appelé mardi la communauté internationale réunie à Genève pour le premier forum mondial sur les réfugiés à en faire beaucoup plus pour assumer collectivement la charge des déplacés plus nombreux que jamais. Ce rassemblement est organisé à l'ONU un an exactement après l'adoption à New York d'un pacte mondial sur les réfugiés censé apporter une réponse collective au mouvement massif de déplacés. Ici même à Washington, les démocrates sont à un pas de la mise en accusation du président Donald Trump. Après 14 heures de débats partisans, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a formalisé la semaine dernière les articles accusant M. Trump d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. Bagassi Koura fait le point.
Cette semaine, Donald Trump sera le troisième président mis en accusation dans l'histoire des États-Unis. Étant lui-même visé, il dénonce le processus.
Utiliser la mise en accusation est un embarras pour ce pays.
Les démocrates qui dominent à la Chambre ont retenu deux articles de mise en accusation qui seront adoptés par un vote à majorité simple en séance plénière. Un procès au Sénat doit suivre au début de l'année prochaine. Ils accusent le président d'avoir utilisé l'aide américaine à l'Ukraine pour ses propres intérêts politiques. Gerald Nadler est président de la commission judiciaire de la Chambre.
Quel est le risque si nous ne faisons rien? Au cours des 94 derniers jours, depuis le début de l'enquête parlementaire, en réalité, au cours des trois dernières années, une vérité incontestable est apparue. Si nous ne répondons pas aux abus de pouvoir du président Trump, les abus vont continuer. Nous ne pouvons pas compter sur des élections pour résoudre nos problèmes lorsque le président lui-même menace l'intégrité de ces élections.
Les républicains soutiennent le contraire. Pour eux, l'appel téléphonique du président le 25 juillet avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky était une tentative de lutter contre la corruption en Ukraine et pas pour obtenir une contrepartie politique. Selon eux, il n'y a rien de nouveau car les démocrates ont toujours cherché à destituer Trump. La représentante républicaine Debbie Lesko.
They predetermined they were going to do it.
Ils étaient déjà décidés à le faire et ils l'ont fait. Ils n'ont aucune preuve, aucun crime, mais ils ont continué et ils déchirent le pays.
Historiquement, les mises en accusation des présidents ont toujours divisé le pays. Même si la moitié des Américains n'est pas pour la destitution de Trump, les démocrates affirment que l'opinion est de leur côté. Nancy Pelosi est présidente de la Chambre des représentants.
Le public pense qu'il doit déterminer qui est le président des États-Unis et pas une puissance étrangère. Le public pense que personne n'est au-dessus de la loi. Nous pensons de même, le président doit être tenu responsable des abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès.
Le procès au Sénat dominé par les républicains va certainement exonérer le président et le garder au pouvoir. Kevin McCarthy, leader républicain à la Chambre des représentants.
Le président a dû publier les transcriptions de cet appel téléphonique au monde entier. Cela a affaibli le bureau du président et c'est lui qui occupera ce poste à l'avenir, que leur appel téléphonique ne soit livré au reste du monde.
Tout ira très vite, quelles que soient les retombées, car 2020, c'est aussi une année électorale aux États-Unis.
L'ex-président pakistanais Pervez Musharraf, en exil à Dubaï, a été condamné à mort par contumace ce mardi pour haute trahison, a annoncé la radio publique, une première dans un pays où l'armée est souvent considérée comme à l'abri des poursuites. Aujourd'hui âgé de 76 ans, le général Musharraf était parvenu au pouvoir par un coup d'État sans effusion de sang en octobre 1999, puis s'était autoproclamé président en juin 2001, avant de remporter en avril 2002 un référendum controversé. Il était resté à la tête du Pakistan jusqu'en 2008. Jean-Roger Billon, prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Écoute ça.